dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Sainte-Afrique.
Quand je suis arrivé en France, j'avais 17 ans. Je suis arrivé ici le 23 août 2016 et c'était particulièrement compliqué de m'adapter. Parce que arriver dans un nouveau pays, oui, avoir la volonté de s'adapter, oui, mais arriver à le faire, c'est une autre paire de manches.
Maintenant, ça y est, on est remotivé, on est relooké, on est coaché, on est cadré, on est recraché sur le marché de l'emploi. On n'arrête pas d'avoir confiance en soi, on n'arrête pas de se présenter, on n'arrête pas les CV, on n'arrête pas les entretiens. On n'est pas chômeur, on n'est plus demandeur. On a maintenant un travail, c'est de chercher de l'emploi.
Dissonance
avec
Laurent Damtougle et Hervé Dauphin
sur Radio Sainte-Afrique.
Ce mois-ci, Dissonance tend son micro à deux invités.
Ils ont pour point commun d'être des amoureux des mots et de la langue française et de vivre pour être, non pour avoir. Après, ce ne sont que des différences.
L'un est français.
L'autre vient du Togo.
L'un est né à Lomé.
L'autre à Reims.
L'un a 17 ans.
L'autre 58.
L'un grimpe les marches d'un avenir à bâtir.
L'autre ne rentre pas dans le moule.
Mais tous deux sont ouverts aux autres. Ce soir, Dissonance donne la parole à Laurent Damtougle et à Hervé Dauphin.
Ce soir, il sera question d'Afrique, de Pôle emploi, de devenir, de poésie, de mots et de silence.
Bonjour Laurent.
Alors bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir de pouvoir partager mon expérience avec les nombreux auditeurs. Je m'appelle Laurent Yendouban Damtougle. Je suis né en 1999 au Togo et actuellement élève en classe préparatoire au lycée Ozène de Toulouse, près de la magnifique basilique Saint-Cernin, si vous voyez là où c'est pour les amoureux de la ville rose.
Est-ce que tu peux nous dire où se trouve, où se situe le Togo ?
Alors le Togo, c'est un petit pays par la taille. Il se situe en Afrique de l'Ouest, juste à côté du Ghana. Donc c'est dans le golfe de Guinée. C'est l'Afrique occidentale, le Togo. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà.
Si un pays tout en longueur, je crois, il fait 100 km de large et 700 de long, m'a-t-on voilà. dit. Et quelle est son histoire en gros ?
Le Togo, c'est une ex-colonie allemande, à ses départs considérée comme une colonie modèle, mais l'Allemagne a perdu le Togo après la Première Guerre mondiale, je crois. Donc le Togo a été placé sous protectorat français jusqu'en 1960 où le pays obtiendra son indépendance. Donc après l'indépendance, le premier président s'appelait Sylvanus Olympio. C'est lui qui a proclamé l'indépendance du pays. Mais suite à un coup d'État, à des coups d'État répétitifs, le pays est aujourd'hui dirigé par M. Fornia Singbe, qui a accédé au pouvoir en 2005.
Dissonance
avec
Laurent Damtougle
sur Radio Sainte-Afrique.
Alors moi, je suis né à Lomé. Lomé, la perle de l'Afrique. On surnomme la ville de Lomé, Lomé la belle. Mais j'ai vécu dans plusieurs endroits du pays, donc je connais à peu près... tout mon pays, non pas sur le bout des doigts évidemment, mais j'ai vécu à Lomé 3 ans, un an dans la ville de Sokodé, au centre du Togo, et au nord du Togo, j'ai vécu plus d'une dizaine d'années. Donc après mon brevet, je suis revenu à Lomé pour mes études, au lycée français de Lomé. Donc j'ai vécu à peu près partout au Togo. Alors ma petite enfance a été l'enfance d'un Togolais lambda, hein, voilà, parce que je côtoyais très souvent mon grand-père, qui était à Lomé. Donc à Lomé, j'étais dans la famille de ma mère. En gros, avec ma grand-mère et mon grand-père, voilà. Mais j'étais chez mes parents, mais je côtoyais souvent mes tantes. On allait se promener au bord de la plage et tout ça. Et après, j'étais à Sokodé. Je revenais souvent pendant les vacances à Lomé. Et pour finir, je suis parti à Dapaon, où j'ai une partie de ma famille. Donc j'ai surtout grandi en famille, voilà, dans l'environnement familial. Et du côté maternel aussi, j'ai beaucoup connu ma grand-mère.
Et ensuite, il y a eu l'éducation primaire. Où est-ce que tu as fait tes études primaires à l'école ?
Alors, j'ai étudié à Dapaon, dans une ville du nord du pays, qui est à 680 km approximativement de la capitale, et au collège Terre des Hommes. Mon collège, c'était un collège privé laïque, où j'avais mon certificat d'études, et le collège aussi. Hein. C'était dans la même ville où voilà, j'ai côtoyé diverses personnes voilà, de toutes les religions.
Donc, pourquoi tu as quitté Lomé? Pourquoi tu es allé faire les études là-bas?
C'est pour des raisons professionnelles. C'est mon père qui a été muté d'abord à Sokodé, voilà, où j'ai fait un an, juste au jardin d'enfants, et après à Dapan, où j'ai fait où j'ai passé la grande partie de ma vie, parce que j'ai fait toutes mes études primaires et tout le collège dans cette ville-là, du nord du Togo.
D'accord. Et c'est dans ce collège que tu aurais été repéré, m'a-t-on dit?
Alors, repéré, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais dans ce collège, en tout cas, il y a beaucoup de belles choses qui me sont arrivées, on va dire. La première expérience au collège de La Salle qui m'a marqué, c'est la création d'une troupe de théâtre. Je faisais partie d'une troupe de théâtre et en classe de 5e, j'ai été choisi avec des élèves de 3e pour interpréter une pièce de théâtre qui s'appelait « Les risques du métier ». Donc j'étais avocat dans cette pièce de théâtre en 5e. Donc j'ai dû apprendre toute ma plaidoirie et toutes les répliques, voilà. Mais ça a été une belle expérience, voilà, magnifique. Parce que nous avons d'abord voyagé dans toutes les villes du Togo. Nous avons organisé une petite excursion avec le collège de La Salle. Nous sommes partis à Lomé, nous avons représenté la pièce de théâtre devant un public. L'année suivante, nous sommes partis à Ouagadougou, au Burkina Faso, et à Bobo-Dioulasso aussi. Nous avons représenté la pièce. Donc c'était la première et la plus belle, enfin, et l'une des plus belles des expériences qui me sont arrivées au collège de La Salle.
Tu as continué ton expérience théâtrale?
Non, mon expérience théâtrale, je ne l'ai pas continuée, mais j'ai continué une expérience avec la poésie, je trouve, parce que j'écris très souvent des poèmes et j'ai commencé par écrire en 5e. Donc c'est l'une des meilleures choses aussi qui me soit arrivée, de commencer par écrire, incité par certains professeurs du collège de La Salle. On avait organisé un concours en classe de 5e à l'occasion des 10 ans du collège de La Salle, et je l'avais remporté avec un poème à la gloire de Saint Jean-Baptiste de La Salle, ce religieux-là justement qui portait l'éducation dans son cœur. Donc c'est là que j'ai commencé par écrire, et quelques temps, et très souvent même en prépa, voilà, je prends quelques précieuses minutes que je consacre à cet amour de la poésie-là. Alors, comme un enfant qui chaque soir fait ses devoirs, en fredonnant des airs amoureuses, je viens chanter ton nom, tel un petit garçon qui voit la vie en rose. Au bord de ta fenêtre, nous discutions des heures, de nos joies et nos rêves, ces espoirs qu'on retrouve en chaque jeune enfant aux yeux noirs innocents. Est-ce que c'est difficile pour moi d'écrire? Je dirais non, parce qu'il faut être dans une... comment dire? L'écriture pour moi c'est vraiment... Je ne sais pas comment l'expliquer parce qu'il y a toujours de l'ineffable. Voilà, c'est une sorte de dialogue parfois avec, voilà, avec ma propre personne. Je découvre l'autre moi, comme le dit Rimbaud. Voilà. Le magnifique Arthur Rimbaud d'ailleurs. Et l'écriture pour moi c'est vraiment une expérience qui m'a apporté. Parce que quand je me sens parfois seul, quand je me retrouve face à des difficultés, le fait de pouvoir écrire, le fait de pouvoir exprimer ses sentiments, le fait de pouvoir décrire une plante qu'on va sur une table, ça m'apporte énormément, ça fait beaucoup de bien. Et justement, je trouve que l'écriture, c'est une partie indissociable de ma personne. Parce que, alors je ne dirais pas que j'écris pour vivre et que je vis pour écrire, mais l'écriture pour moi, c'est très important. Ça me permet de garder un équilibre aussi. Et mon amour pour les mots s'en trouve grandi.
D'accord, tu continues à écrire?
Oui, je continue à écrire tous les jours. Et même aujourd'hui, je crois que j'ai écrit un sonnet.
On pourrait l'entendre?
Évidemment. Alors, je vais voir. J'ai écrit un sonnet aujourd'hui. Aux rimes impaires qui de nos jours s'emparent, en nous laissant amers, à ces amours bleus, lumière de nos yeux, qu'écrire nos aïeux, à toutes ces joies qu'on aimait autrefois, sentir entre nos doigts venir chasser le froid, à ces vers heureux qui chantent, amoureux, l'amour universel de ces rimes si belles. Voilà, c'est un petit chant d'amour à la poésie, une discipline justement que j'affectionne particulièrement.
Tu n'as pas eu envie de publier?
Alors j'ai eu envie de publier effectivement, mais j'ai commencé un recueil. Je suis à une 70 poèmes. Et Voilà. Mais pour le moment, je me concentre exclusivement sur la prépa. Et après la prépa, justement, je pourrai essayer d'écrire, de publier et de voir ce que ça donne.
Pour revenir à tes années collège, donc le théâtre, la poésie, qu'est-ce que ça t'a apporté encore ?
Alors, mes années collège ont été déterminantes dans mon parcours scolaire, particulièrement parce que mes professeurs ont mis l'accent sur le travail. On m'a obligé à travailler en quelque sorte.
Tu travaillais pas avant ?
Si, je travaillais, mais parfois je me reposais un peu sur des acquis. Je n'étais pas porté toujours vers plus d'efforts et plus d'excellence parce que j'avais déjà de très bons résultats, donc je m'en satisfaisais. Mais mes professeurs me disaient justement qu'il fallait toujours continuer par travailler, toujours chercher plus. Et c'est justement ce goût du travail-là, ce goût de l'effort qui m'a été inculqué lors de mes années collège, qui m'a permis d'obtenir de bons résultats à l'examen du brevet togolais, à la suite de quoi j'ai été sélectionné. Je me suis vu attribuer une bourse d'excellence pour le lycée français de Lomé. Lycée français de Lomé, un des meilleurs lycées justement du Togo, qui est situé dans la capitale. Cette bourse m'a vraiment énormément aidé. Parce que tous mes frais de scolarité étaient pris en charge, intégralement pris en charge. Donc c'était bien et ça m'a permis justement d'accéder au lycée français de Lomé, de découvrir un autre monde. Parce que les choses ne fonctionnent pas exactement de la même manière au lycée français de Lomé et dans une école togolaise lambda. Donc ça a été une expérience très enrichissante pour moi.
C'était quoi les découvertes alors de cet autre monde ?
Alors c'était d'abord de nouvelles méthodes de travail dans des champs disciplinaires comme l'apprentissage des langues en France. Alors il y a 4 champs disciplinaires qui sont travaillés et je trouve que c'est parfaitement organisé. L'expression écrite, la compréhension écrite, l'expression orale et la compréhension orale. Donc tous ces champs disciplinaires là permettent justement de cerner la langue dans ce qu'elle a de plus précieux. Alors que dans le système togolais, les compréhensions orales et l'expression orale n'occupe pas une place importante, ça n'existe même pas parce qu'on travaille très souvent sur l'écrit. Donc il n'est pas rare de voir un élève qui a un bon niveau en anglais, un bon niveau à l'écrit, qui obtient de bonnes notes en anglais, ne pas être capable justement de s'exprimer dans un anglais fluide. Et je trouve justement qu'il y a certaines choses qui doivent changer. Ensuite, il y avait évidemment les conditions de travail qui étaient meilleures au lycée français de Lomé. Il y avait des vidéoprojecteurs dans chaque classe, voilà. On est converti à la modernité.
Et donc là, tu as côtoyé des jeunes qui sont rentrés dans ce lycée sans bourse, donc qui avaient les moyens, qui venaient dans notre milieu social. C'était quoi ? C'était les futurs ministres du pays, les futurs présidents de la République ?
Alors, je ne sais pas exactement si ce sont les futurs ministres du pays. Je ne veux pas me permettre de prendre ces paris risqués là. Mais effectivement, j'ai côtoyé des personnes d'un certain milieu social plutôt aisé. Et personnellement, ça ne m'a pas posé problème parce que voilà. Je suis d'un milieu où on n'a pas de problème, on n'a pas de répugnance particulière envers ceux qui ont ou voilà, ceux qui n'ont pas. Et on discute, on dialogue, on fraternise avec les personnes qui nous entourent et qui nous apportent souvent énormément justement dans nos parcours personnels.
Et est-ce que c'est dans ce lycée que tu as maîtrisé l'espagnol, la langue espagnole, la langue castillane, dont on m'a dit que tu étais un champion ?
Alors j'avais déjà commencé par apprendre des bases de l'espagnol au collège de La Salle. On avait des cours un peu, mais c'était plus de la conjugaison, un peu de grammaire. Mais c'est vraiment au lycée français que je me suis mis à apprendre comment parler espagnol en classe de seconde.
Et pourquoi l'espagnol, l'allemand, j'aurais compris, puisqu'il y a un passé quand même allemand avec la colonie.
Alors il n'y a pas de lien particulier entre le Togo et l'Espagne, mais c'est par amour de l'espagnol. J'ai regardé l'histoire des pays d'Amérique latine, les révolutions, le Che Guevara, Cuba et tout le reste. Et je dois reconnaître que c'est très passionnant de s'intéresser à de telles thématiques, quoi qu'on en pense en France, parce que bon voilà, mais je trouve que ce sont des pays qui ont une histoire riche, une culture riche, les pays d'Amérique latine, les civilisations précolombiennes et tout le reste. Donc c'est ça qui m'a d'abord intéressé, ça m'a appâté. Et ensuite je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne cette langue-là qui est l'espagnol.
Est-ce que tu as mis les pieds en Espagne ou en Amérique du Sud depuis ?
Non, jamais. J'ai connu 4 pays dans ma vie, le Togo, le Bénin, le Burkina et la France. Donc je n'ai jamais mis les pieds en Amérique latine ni en Espagne. Mais j'espère que je pourrai très prochainement le faire.
Tu sais que tu n'es pas loin ici, Toulouse, l'Espagne. Donc justement, Toulouse, on en était au lycée français, tu obtiens ton bac ?
Oui, j'obtiens mon bac.
Tu as une bourse pour pouvoir venir encore ici ?
Oui, voilà. J'obtiens mon bac et je suis sélectionné dans le cadre du programme de bourse de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, qui m'a octroyé la bourse Excellence Major, qui est octroyé à des élèves de lycées français à l'étranger qui présentent des dossiers de leurs résultats depuis la première, voilà, et qui sont sélectionnés justement sur la base de leurs dossiers et du projet scolaire qu'ils envisagent de faire. Donc c'est cette bourse excellence majeure là que j'ai eue, et c'est elle qui me permet justement d'être là à Toulouse et de continuer mes études dans ce magnifique lycée Ozène.
Tu as dû présenter un projet scolaire, donc c'était quoi ce projet?
Alors l'exigence des classes préparatoires m'a été portée. Je me suis dit que ce serait un défi intéressant justement de me frotter à ce monde-là. Alors qui n'est peut-être pas le plus charitable, certains diront, ou qui n'est peut-être pas le plus facile, mais je trouvais que le jeu en vaut la chandelle vraiment, et que je suis en train de travailler, j'apprends énormément de choses, et il y a des méthodes qui, je l'espère, vont me servir dans toute ma vie. Donc j'ai présenté mon ambition d'intégrer une classe préparatoire, et si possible de faire une école de commerce après la classe préparatoire.
Un petit garçon, les cheveux blonds, la tête d'un ange, joue à la guerre, imite ses frères qui imitent les hommes. Rose et mignon comme tout lardon qui sort des langes. Les yeux très clairs, les yeux de sa mère, oh, comme trois pommes. Il a eu de la chance à la naissance, la petite crapule. Il a vu le jour bordé d'amour dans une clinique. Par en vieille France, le nom commence en particule. Le fait l'entoure, le part d'atour très catholique. Famille nombreuse, famille heureuse, famille modèle. Propriété, voilier l'été, chien de race. Grand-mère gâteuse, tante religieuse, cousine si belle. Dans leur chemisier, leur jupe plissée, première de la classe. Et sa mère attendrie qui guette son mari, qu'elle aime comme un père. Jeune nouveau foyer qui surveille la porte et la couve et la nourrit. Qui accouche, ravie tous les ans et demi sans se mettre en jachère. Sans se laisser souffler, grenouille de bénitier, elle veut son paradis. Elle regarde ému son marmot ingénu qui s'amuse à la guerre. Qui avec ses frangins, toute sa bande de cousins se chamaille dans le parc. Ses gosses roses et joufflus dont elle torche les culs et dont elle est si fière. Qui se refont vers d'un puits, poussent des cris d'indiens, se fabriquent des arcs. Se développe, il a l'enfance jouée d'avance de ses grands frères. Il fait son chemin, se fait des copains aux scouts d'Europe et déjà pense servir la France et faire carrière. Collège privé, lycée privé, catéchisme, une gueule d'amour avec ça, tout pour réussir. Tête rasée par cassiré du charisme et enfin le jour du fameux concours de Saint-Cyr. Il est reçu, il est bisu, il fait ses classes. Travaille beaucoup, se prend des coups, c'est en donné. Il est promu et reconnu, il se surpasse. Et ça vaut le coup, vient le jour où il est diplômé. Ce jour-là, tout son clan assiste fièrement aux rites officiels. Toute la clique des tarés, elle a costumé comme pour un carnaval. Les discours navrants des petits dirigeants et puis vient le cocktail. Les casquettes lancées dans des cris de gaieté qui ouvrent enfin le bal. Et au milieu des bravos, sa mère dans un sanglot qui l'embrasse, qui rigole. Heureuse, exaltée d'avoir une lignée dont elle puisse être si fière. Dieu que son fils est beau, elle touche son galop, elle rajuste son col. Rien ne fait plus rêver qu'un jeune officier. Surtout en temps de guerre.
Gauche, 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 droite, gauche.
Ma chère maman, écrit-il dans ses rares courriers. Et puis s'ensuit le long récit de ses faits d'armes. Enrobé dans des mots gluants et ampoulés, il a le souci, sa mère, de lui tirer des larmes. Et elle pleureuse, elle rageuse, elle défaite. Elle chagrin, qui prend ses mains pour des mouchoirs. Elle reste pieuse et courageuse, elle se tient prête. Elle prie pour qu'enfin sonne la fin et la victoire. Et un matin, il s'en revient son cher enfant. Il fait très beau, la météo se moque des clichés. Il s'en revient dans du sapin, les pieds devant, sous un drapeau, le papier cadeau de l'armée. Et sa mère effondrée, qui paraît étonnée de cette fin brutale. Peut-être pensait-elle son fiston immortel, que croyait-elle, l'idiote, que son môme officier était immunisé, qu'il déviait les balles. Le monde est bien cruel, elle s'en remet au ciel, l'imbuvable bigote. Mais le plus révoltant, c'est que cette chère maman ne l'ait pas révoltée. Elle ne vomit même pas contre Dieu ni l'État, un légitime venin. Le jour de l'enterrement, elle reçoit dignement la famille endeuillée, qui lui presse le bras et qui se dit tout bas que le noir lui va bien. Croise les bras et elle se dit tout bas que le noir lui va bien.
Dissonance
avec
Laurent Damtougle
sur Radio Sainte-Afrique.
Quand je suis arrivé en France, j'avais 17 ans. Je suis arrivé ici le 23 août 2016 et c'était particulièrement compliqué de m'adapter. Parce que arriver dans un nouveau pays, oui, avoir la volonté de s'adapter, oui. Mais arriver à le faire, c'est une autre paire de manches. Surtout que j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le système administratif, les papiers, les documents à remplir et tout le reste, surtout que j'étais mineur. Et j'ai des professeurs que je n'ai pas le droit de nommer. Mais voilà, je les en remercie parce que bon, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a énormément apporté, qui m'ont aidé dans la constitution de mes dossiers, dans des choses quotidiennes qui n'avaient alors là aucun rapport à voir avec ma classe prépa. Mais comme je leur en ai parlé, voilà, qui m'aident, qui continuent de m'aider au quotidien et qui me donnent des conseils. Et c'est aussi ça l'expérience de la prépa, parce que ce ne sont pas que des élèves. Je suis entraîné, qui travaille 24 heures sur 24, mais c'est aussi des rencontres avec des gens qui nous aident, qui nous conseillent, qui nous outillent, qui nous guident. Et qui nous permettent justement d'être accomplis, pas seulement en tant qu'élève, mais en tant qu'homme, comme en devenir, je dirais.
Comment tu vois ton avenir, ton devenir, comme tu dis, Laurent ?
Il y a un secteur qui me tient particulièrement à cœur, c'est le secteur de l'éducation. Donc, après avoir fait une école de commerce, voilà, si j'ai l'occasion d'en faire une, après ma prépa, j'espère que j'en ferai une, je vais travailler une dizaine d'années, de préférence dans une firme internationale, voilà. Et après, je compte rentrer au Togo et me lancer dans un projet éducatif. Je ne sais pas lequel, quel projet éducatif ce sera, je ne sais pas si ce sera en tant que professeur ou en créant une école ou en enseignant l'université. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Et je compte m'inscrire justement dans un projet éducatif qui va pouvoir apporter à mon pays, parce que je trouve que c'est l'éducation qui permet de sortir du sous-développement, des mauvaises conditions de vie quelquefois, et de plusieurs choses. Donc je me vois aussi peut-être participer au monde politique et apporter peut-être des idées nouvelles pour la réforme du système éducatif, parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur personnellement.
Je vois pas le lien entre le commerce et l'éducatif.
Alors, en école de commerce, on ne fait pas que du commerce normalement. On apprend beaucoup de choses. Ça va de l'organisation de projets, de l'entrepreneuriat, à tout ce qui est finance, banque. Donc, il y a aussi l'économie du développement durable et tout le reste. Donc, on apprend en fait énormément de choses en école de commerce. Et il y a une pluridisciplinarité dans les écoles de commerce. Elles sont très ouvertes et elles enseignent énormément de choses. Et aussi, si je me lance dans un projet éducatif, les compétences en management, justement, que j'aurais appris en école de commerce, vont peut-être m'aider à réunir des fonds pour créer une école. Et aussi, je compte enseigner dans tout ce qui est peut-être domaine économie, mathématiques. Donc, en école de commerce, j'aurai le temps, j'aurai l'occasion d'apprendre énormément de choses en lien à voir avec le monde économique et aussi de faire peut-être à côté une petite licence de mathématiques.
C'est quoi ton quotidien ? Tu as beaucoup d'heures de travail, de préparation, tu sors jamais, tu profites pas de cette belle ville ?
La ville rose me tend souvent les bras. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller en profiter au quotidien, mais je dois dire que la prépa ne me prend quand même pas tout mon temps, mais il faut énormément de travail pour s'en sortir. C'est la quantité de travail qui est importante, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de méthodes à assimiler rapidement, il y a beaucoup de connaissances. Ça va vite en prépa et il faut pouvoir, il faut être en forme pour tenir le rythme. Donc faire la fête tous les soirs, je ne trouve pas que ce soit une bonne stratégie personnellement pour réussir en classe préparatoire, mais voilà. C'était éprouvant au départ, mais là on est habitué, on est un peu formaté, on est rentré dans le moule, on est des guerriers surentraînés pour aller chercher la victoire au concours, donc Quoi de plus important, voilà.
Donc tu as déjà passé une année, c'est ta deuxième année que tu passes ici. Hein. Ça va durer combien de temps ces années de préparation, de prépa?
Seulement 2 années. Et à l'issue de la deuxième année, on passe des concours pour intégrer les grandes écoles de commerce et de management.
Et justement, dans ton lycée, le lycée Ozen, on peut le nommer, il y a un projet avec le Togo.
Le projet éducatif a été mis en place par l'association OZ. L'association OZ a été créée en 2016 par des professeurs du lycée Ozen de Toulouse et des élèves qui étaient à l'époque en première année de classe préparatoire. Donc l'objectif cette année, c'est d'apporter de l'aide à une bibliothèque de quartier qui est située à Lomé. Lomé la Belle, Lomé la Perle de l'Afrique, voilà, je reprends de surnom. Et cette bibliothèque de quartier a été créée dans les années 2000 par des professeurs du lycée français de Lomé. Et la bibliothèque est ouverte à tous les habitants du quartier Nyekonakpoé à Lomé, quartier où se situe le lycée français de Lomé. Donc tous les élèves, tous les citoyens peuvent aller y consulter des livres et des documents. Actuellement, la bibliothèque a un projet d'informatisation. Donc nous, élèves du lycée Ozen, nous nous sommes dit que ce serait bien qu'on puisse apporter notre petite pierre à l'édifice, justement, qu'on puisse aider dans ce projet d'informatisation-là. Et nous menons des actions sur la ville de Toulouse. Nous récoltons quelques ordinateurs portables dont l'association a besoin. Nous avons récolté des livres et nous continuons par récolter justement des fonds dans le but de les apporter à cette association-là qui est à Lomé, qui mène ce projet d'informatisation. Et nous savons tous que l'informatique, justement, l'accès aux nouvelles technologies, est vital, justement, dans le monde du 21e siècle, parce que c'est une nouvelle manière d'être éduqué. Donc, les gens qui n'ont pas accès à l'éducation, qui sont analphabètes, mais on est d'un côté analphabètes aussi si on n'a pas accès aux nouveaux outils dans ce monde du 21e siècle, là où les nouvelles technologies font peut-être presque tout, justement. À titre personnel, je trouve que la notion de solidarité, la notion d'entraide n'a pas de frontières. Il ne s'agit pas d'assistanat, il ne s'agit pas de charité chrétienne. Voilà. On travaille en partenariat avec la bibliothèque Aklanou. Et ce qu'il est bien aussi de signaler, c'est que nous aussi nous allons sortir enrichis par cette expérience, parce que nous allons aller découvrir un autre système éducatif. Les élèves qui vont voyager au Togo, nous allons voir comment les choses se passent au Togo, nous allons découvrir le lycée français de Lomé, donc nous allons découvrir un autre pays. Ce n'est pas une action qui va dans un seul sens, mais c'est dans les deux sens, en ce sens où nous essayons de leur apporter justement ce matériel-là dont la bibliothèque a besoin. Mais ce n'était pas obligé que ce soit par nous qu'elle l'obtienne, parce que la bibliothèque a plusieurs partenaires qui l'aident et tout. Mais nous nous sommes portés volontaires justement pour les aider dans ce projet, parce que nous trouvons que l'éducation c'est une noble cause, nous trouvons que c'est la meilleure des causes. Et nous aussi nous allons aller découvrir le Togo, découvrir ses réalités. Je dis nous, je parle des gens qui vont voyager, découvrir le Togo, découvrir ses réalités, voir comment les choses marchent. Et le fait de s'impliquer dans ce projet associatif là aussi m'apporte à titre personnel énormément de choses, et apporte aussi aux élèves du lycée Ozen de Toulouse qui sont impliqués dans ce projet là une expérience qui, je pense, va leur servir toute leur vie.
Merci beaucoup, Laurent.
Écoutez, merci à vous. Voilà.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole. Parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolle. Parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolle. Y a des clients, y a des salauds, y a des clients, y a des salauds, jamais dans l'eau, qui se trempe jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, Les sous, croyez pas qu'elles les volent. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public. Elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics. Et menacées de la vérole, parole, parole. Et menacées de la vérole. Bien que toute la vie elle fasse l'amour, bien que toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour. La noce c'est jamais pour leur fiole, parole, parole. La noce c'est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus. La pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu mon cher, il s'en fallait de peu mon cher, que cette putain ne fût ta mère, que cette putain ne fût ta mère. Cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain.
Hervé Dauphin, qui es-tu ?
Bon, je fais partie d'un groupe de lecteurs à Paris qui s'appelle les Toboggans Poétiques. Donc c'est un groupe d'auteurs, de comédiens, et on se produit tous les mois environ dans des lieux culturels à Paris, donc sous la forme d'un cabaret où on passe chacun des textes d'une dizaine de minutes. Bon, c'est un groupe assez informel avec un petit public qui nous suit depuis 6 ans à peu près.
Donc ce sont des gens qui vont faire des lectures. Effectivement, hier soir, on t'a entendu sur une scène aveyronnaise là, faire des lectures. Pourquoi avoir choisi cette forme d'expression ? L'écriture d'abord, et puis la lecture à haute voix après.
J'aime ça. J'ai quand même une petite formation théâtrale. Au départ, j'ai commencé par le théâtre amateur à Reims, dans des petites troupes. J'ai toujours écrit plus ou moins pour le théâtre, pour dire mes textes. C'est essentiellement des monologues. Mais alors tout ça, j'ai commencé assez tardivement. Hein.
Mais l'écriture aussi, tu as commencé tardivement ?
Oui, j'ai commencé assez tardivement. Oui, c'est pas, j'ai pas commencé à 15 ans ni même à 20, mais plus tard. Enfin, j'ai commencé le théâtre vers 25 ans, et puis tous les textes là qu'on a entendus sont plus récents. Ça vient surtout d'un gigantesque ras-le-bol par rapport à la situation de l'emploi, la mienne déjà. Donc tout ça, ça vient d'un vécu.
Tu as été baladé donc de recherche d'emploi en recherche d'emploi, c'est ça ?
Oui, oui. Alors j'ai pas écrit uniquement là-dessus, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences militantes avec le chômage. Ça a commencé en 97-98 où il y a eu, je sais pas si on s'en souvient, mais sûrement un mouvement de chômeurs, des choses comme ça. Donc moi j'ai participé à tout ça.
Dissonance
avec
Hervé Dauphin
sur Radio Sainte-Afrique.
Bon, c'est vrai que oui, ces textes-là sont venus un peu après, une fois que j'ai mûri tout ça, toutes ces expériences-là.
Et ces expériences, ça a été quoi ?
À l'époque, j'ai participé à quelques marches de chômeurs et quelques mouvements comme ça de protestation dans des groupes.
Qu'est-ce qui te révoltait dans l'emploi ou dans le chômage ?
Oui, oh, mais c'était le besoin de faire faire quelque chose, et puis surtout de pas être seul de pas être isolé surtout.
Est-ce que tu, à la fin de tes lectures, il y a des chômeurs qui viennent te voir et qui disent qu'ils se retrouvent dans ta vision de Pôle emploi, dans ta vision du candidat à l'emploi ?
Oui, oui, je crois qu'on a tous un peu la même expérience de tout ça. Bon, je n'ai pas fait de débat vraiment là-dessus, parce que ça, c'est quand même une écriture personnelle. Ça n'a plus rien à voir avec une démarche militante, vraiment, c'est autre chose. Enfin, disons que c'est deux choses quand même différentes, mais...
Ce que tu sépares quand tu parles des deux choses, c'est le militantisme et l'écriture ?
Oui, bien sûr. Oui.
Et cette volonté d'écrire, tu l'as depuis quel âge ? Depuis tout petit ?
Non, je pense pas. Je dirais pas ça. C'est simplement la sensibilité littéraire, oui. Après, il y a beaucoup d'écrivains qui disent avoir commencé dans l'enfance. Moi, non. J'étais plutôt un lecteur. Bon, mon implication dans l'écriture a été un peu plus tardive. J'ai écrit peu, mais assez régulièrement, quoi. Alors pas que sur les problèmes de recherche d'emploi.
Est-ce que tu as écrit toujours pour être entendu ou uniquement tu as écrit pour toi ?
Bah pour être entendu, oui, dans le sens où moi j'ai toujours aimé la lecture à haute voix, mais bon, j'avais pas une production vraiment suffisante pour être édité, donc ça c'était plutôt secondaire pour moi. Ouais, c'était surtout le passage par la lecture qui m'intéressait.
Tu parles d'édition, pourtant on m'a dit que tu avais été édité.
Oui, j'ai écrit un premier conte qui a été édité, oui, en 2001. Donc c'était un petit plus, c'est vrai.
Et ce conte s'appelait
Mémoire blanche.
C'était aussi lié au thème de l'emploi ou non ?
Oui. C'est vrai que je m'aperçois, je m'aperçois que pratiquement... tout est lié au thème de l'emploi dans ce que j'ai fait, effectivement. Ouais, on n'était peut-être pas rendu compte à ce point-là. Enfin, c'est entremêlé avec d'autres thèmes, hein, d'autres choses.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le thème de l'emploi, il y a aussi ton amour des mots, ton amour des livres, ton amour des textes qui transparaît. Hier, dans la seconde partie du spectacle, c'était ça ?
Oui, bien sûr. Bon, ben ça, je pense que c'est le point commun de toute personne qui écrit et qui a été nourrie, inspirée par pas mal d'auteurs.
On cherche un emploi. On est chercheur d'emploi. On était avant demandeur d'emploi, mais on est actuellement à la recherche d'un emploi. On n'arrête pas de chercher, on n'arrête pas de demander, on doit le trouver, on doit le retrouver, l'emploi. On ne cherche pas bien, on n'est pas bien positionné, on n'est pas remotivé. On n'aura pas comme ça de travail, on n'aura pas d'emploi, on n'a pas confiance en soi, on a perdu l'estime de soi. On va faire un atelier d'affirmation de soi, on va retrouver l'estime de soi. On a des techniques de recherche d'emploi, on a de l'élaboration de projets professionnels, on a des modules de préparation à l'insertion, on a de la mobilisation multi-métier, On a de l'immersion en entreprise. On a des opérateurs d'accès à l'emploi. On a des conseillers. On a des coachs. On a des consultants. On fait des présentations. On fait des simulations. On fait des entretiens. On fait des vidéos. On voit bien ce qu'il ne faut pas faire. On voit bien ce qu'il ne faut pas dire. On voit bien comment on est. On voit bien comment on devrait être. On voit bien comment il faudrait qu'on soit. On sait maintenant quoi faire avec ses mains. On sait comment on doit respirer. On sait où il faut regarder. On s'est présenté. Tout le monde s'est présenté. On a fait les présentations croisées. On s'est mis à la place du voisin. On a pris la place de l'employeur. On a dit au voisin ce qui n'allait pas bien chez lui. Et le voisin nous a dit ce qui n'était pas bien chez nous. On a un CV. Tout le monde a un CV. Mais on ne peut pas tout mettre dans son CV. On refait un CV avec ce qu'on prend dans les autres CV. Mais on ne doit pas tout mettre dans tous les CV. Ben alors, on n'a pas le bon CV. On me dit, il est bien votre CV. Vous devriez continuer à faire des CV. Et on me dit, c'est normal que tu trouves pas. Il est nul ton CV. T'aurais pas un autre CV ? On doit éliminer toute connotation négative. On doit éliminer aussi tous les mots inutiles. On ne doit rien mettre entre parenthèses. On ne doit pas laisser de petits points de suspension. On a des savoir-faire. On a été chercher nos savoir-faire. On va maintenant faire savoir qu'on a des savoir-faire. On va harmoniser le langage de notre corps avec notre pensée et avec nos paroles. On va mettre en cohérence son image, sa personnalité et ses aspirations. Après, on va faire du relooking. On a de l'entretien conseil pour envisager le changement. On a de l'aide au positionnement. On a du soutien pour accompagner les mutations vers de nouveaux positionnements. Maintenant, ça y est, on est remotivé, on est relooké, on est coaché, on est cadré, on est recraché sur le marché de l'emploi. On n'arrête pas d'avoir confiance en soi, on n'arrête pas de se présenter, on n'arrête pas les CV, on n'arrête pas les entretiens. On n'est pas chômeur, on n'est plus demandeur. On a maintenant un travail, c'est de chercher de l'emploi. On ne veut pas d'autre travail. On a assez de travail comme ça à rechercher de l'emploi. On ne cherche rien d'autre, on ne fait rien d'autre, on rêve à rien d'autre. On n'aura plus de métier, on n'aura plus de passion, on n'aura plus d'aventure. On n'aura plus un remords, plus un cri, plus un silence. On n'aura vraiment plus de travail.
Have you ever seen a church begin to rock? Heard a sundown deacon preaching to his flock? Have you ever seen old Satan on a run? Then follow me, see just how it's done. And have you ever heard a sermon stir your soul? Make you crave the river of Jordan as you go. Have you ever felt as though you'd like to shout? Then come on and let them feelings out. Oh, Lord. Yes, hear those sisters groaning. And hear those brothers moaning. Repenting and atoning on revival day. They talking to the Spirit. you see and hear it. They sinful and they perish on revival day. When that congregation starts to sing, nothing in this world don't mean a thing. Oh, glory, hallelujah, makes you feel so peculiar. The devil cannot rule you on revival day.
Glory, glory,
hymns are purifying.
Glory, glory,
wash my sins away.
Lordy, lordy,
feel just like a lion.
Lordy, lordy,
I'm reborn today. Oh, just hear those sisters groaning and hear them brothers moaning, repenting and atoning on revival day. Oh, they're talking to the Spirit just like you see and hear it. They simple and they bear it on revival day. When that congregation starts to sing, nothing in this world don't mean a thing. Oh, glory, hallelujah, makes you feel so peculiar. The devil cannot rule you on revival day.
Dissonance
avec
Hervé Dauphin
sur Radio Centrafrique.
Tu as une vision du travail ?
Une vision du travail, moi, elle est assez négative personnellement, bon, parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais pratiquement connu le travail, en tout cas le travail salarié. Donc, je suis, on peut dire une sorte d'autodidacte. Hein, et j'ai pas non plus une formation universitaire. Donc, pour refaire le parcours en quelques mots, j'ai commencé des études de lettres, mais j'ai pas terminé ma licence. J'ai voulu faire de la librairie. J'ai fait une formation de libraire, mais ça n'a pas beaucoup marché parce que je n'étais pas tellement fait pour être vendeur. Et je suis tombé après, si on peut dire, dans le livre d'occasion. Et je suis devenu bouquiniste. J'ai travaillé... Non pas sur les quais de Seine, mais dans différents marchés, dans différents endroits. Et c'est de la précarité. J'ai toujours couru pendant toute une partie de ma vie après quelque chose d'un petit peu plus sérieux et moins précaire dans ma vie, et puis je l'ai jamais trouvé. Et donc je fais partie de cette génération. Je peux pas en faire une généralité. Je suis vraiment tombé dans le chômage, si on peut dire, et inscrit à la NPE à l'époque depuis très longtemps. J'ai une longue carrière comme ça de précaire. Donc maintenant, je viens d'avoir 58 ans. Et ben j'ai compris que voilà, je travaillerai jamais, en tout cas. Comme beaucoup de gens quand même ont travaillé, c'est-à-dire dans une entreprise ou même dans le public.
Et c'est un constat qui te déçoit, qui te désespère, ou non, c'est juste un constat, point.
Ben pendant longtemps, ça m'a désespéré, oui, quand j'étais plus jeune. Donc ça me fichait quand même pas mal d'angoisse. J'étais pas du tout parti sur un... C'était pas un choix du tout de ma part. C'est ce qu'il faut comprendre aussi pour beaucoup de chômeurs comme ça. J'ai pas choisi une vie de bohème. Contrairement à certains, hein, ça peut être le cas de certains artistes ou de certaines personnes qui se disent « Bon, je fais le choix de me consacrer uniquement à mon travail personnel. » Bon, moi non, d'abord c'est venu assez tardivement, et puis j'ai jamais pensé que je pourrais en vivre ou en faire vraiment une occupation. Donc oui, pour en revenir à la question, j'ai pendant toute une partie de ma vie, même jusqu'à assez récemment, j'étais pas à l'aise du tout avec ça. C'était pas du tout un choix. D'où mon militantisme sur ces problèmes d'emploi, d'où tout ça. Et puis finalement, là, j'ai laissé tomber ce côté militant pour l'emploi, justement, et je me suis dit que ce qui était important maintenant, c'est de continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, parce que de toute façon, même si je ne le voulais pas, je ne retrouverai pas d'emploi salarié maintenant, parce que on sait ce que c'est. Bon, après 50 ans, c'est extrêmement difficile, donc c'est plus la peine de... J'ai compris que c'était plus la peine d'envoyer des CV. C'est un peu le sens de certains de mes textes. Hein. Donc peut-être justement, mais tous ces textes, c'est pour expurger toute cette problématique, tout ce qu'on nous fait vivre à Pôle Emploi maintenant et dans les associations d'insertion. Vous avez pas de travail parce que vous avez pas assez cherché, vous n'avez pas fait la bonne lettre de motivation, et donc en fait non, il y a beaucoup de personnes comme ça, comme moi, qui n'ont jamais trouvé d'emploi non précaire, parce que le marché de l'emploi n'est pas fait pour eux. Voilà, pour des tas de raisons, hein, aussi peut-être pour des raisons personnelles, pas simplement parce que les employeurs sont méchants et ils ne veulent pas de nous, mais parce qu'on ne rentre pas dans les cases, hein, voilà. Il faut commencer tôt à être dans le moule. C'est simplement ça, hein. Je avant de critiquer les entreprises ou les employeurs d'une manière générale, si on n'a pas les bons diplômes, si on n'est pas dans la bonne filière à 25 ans, ça devient très vite difficile de se raccrocher aux branches. Il n'y a pas trop de deuxième chance. C'est ce que j'ai retenu de mon parcours. Hein.
Et donc l'écriture, ça a été un échappatoire pour toi? Ça a été ces fameuses branches qui t'ont permis de te raccrocher?
Oui, bien sûr, mais en même temps, j'y ai jamais cru suffisamment pour penser en faire un métier, peut-être à tort d'ailleurs. Donc j'y ai pas cru, ouais, j'y ai peut-être pas suffisamment cru, sinon j'aurais peut-être pu faire une vraie carrière, comme on peut dire, d'écrivain. C'est vrai que il est jamais trop tard pour écrire tant qu'on a la main et la tête pour pouvoir le faire. Voilà.
Tout à l'heure, tu parlais de pression dans la recherche d'un emploi, le travail salarié, la hiérarchie, etc. Tu te confrontes à une autre forme de pression quand tu es dans un spectacle, face à un public, quand tu es dans une séance de lecture. Comment tu la gères, cette pression?
Ah ben ça, c'est une pression voulue. Alors c'est quand même évidemment complètement différent. C'est pas pour moi une contrainte, hein. Donc tout va à peu près bien, sauf que maintenant ce que je fais, c'est c'est encore de la lecture et c'est pas vraiment c'est pas encore du spectacle tout à fait.
Et si tu devais, pour finir, définir ton écriture, qu'est-ce que tu en dirais, Hervé?
C'est surtout ce dont on a envie de parler. Il y a les influences, ce qui nous a nourris en tant que lecteur. Et puis il y a ce qu'on a envie de traiter. Donc voilà, moi tout ce que j'ai écrit sur le thème de l'emploi, maintenant je sens que ça débouche vers d'autres choses. Ça s'élargit, mais il y aura toujours cette base, parce que c'est vrai que c'est un peu ma vie. Moi, comme j'ai passé toute ma vie dans le chômage, on va dire, ça sera toujours présent en arrière-fond. Mais maintenant, par exemple, j'ai envie d'écrire un roman ou peut-être une pièce de théâtre, je sais pas, qui traiterait de l'avenir des chômeurs, de ce que va devenir Pôle emploi, de comment ça va évoluer. Pour résumer, ce serait une sorte de roman de science-fiction sur ce thème. Voilà.
Bon. Eh bien, bonne chance, Hervé, et merci de nous avoir prêté tes mots. Au revoir.
Merci beaucoup.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance.
Vous y trouverez aussi sur notre site les références des musiques et chansons entendues.
Vous y trouverez aussi des informations sur la venue de Michel Audin en Aveyron les 11 et 12 avril pour évoquer un événement historique cher à l'équipe de Dissonance, à savoir la Commune de Paris de 1871.
Michel Audin, vous êtes l'auteur d'un livre « Comme une rivière bleue » paru aux éditions Gallimard qui nous fait revivre les 72 jours de la Commune de Paris en 1871. Mais vous gérez aussi un site internet remarquable, macommunedeparis.com, qui grouille d'informations sur cette période d'effervescence révolutionnaire. Alors, avant de vous entendre lors de votre venue en Aveyron à Millau le 11 avril et à Sainte-Afrique le 12, pouvez-vous nous dire pourquoi vous portez un tel intérêt à cette période qui va du 18 mars 71 au 28 mai 71?
C'est une période pendant laquelle les classes populaires, c'est-à-dire des couturières, des ciseleurs, des relieurs, des gens qui avaient toujours été traités comme la vile multitude, humiliés, trouvent une certaine dignité, prennent la vie politique en main. Ils font ça dans la joie. Et c'est un moment de joie unique dans l'histoire, je trouve, et c'est ça qui m'intéresse.
À un moment, vous écrivez dans votre livre « Une révolte du 19e, un mythe du 20e » et vous posez la question « Qu'en sera-t-il au 21e ?» Alors, avez-vous une réponse? Que représentera la Commune de Paris pour les gens au 21e siècle?
Je ne sais pas. Je pose des questions, je ne donne pas de réponse.
Un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes. Rencontre avec un magicien du rabot et de la...
Il y aura aussi la découverte
du centre de sauvegarde de la
faune sauvage.
Jeune
homme de 91 ans, au parcours de vie passionnant et passionné
que l'histoire officielle cherche à connaître.
La révolution sociale espagnole...
Bien conteur, nimbé de culture occitane.
Les rubriques poétiques d'Elsa Dauphin côtoieront ces parcours de vie.
Livre qui nous plonge dans les prémices de la Commune de Paris.
Accueil durant 3 mois en Aveyron de jeunes migrants.
Dissonance.
Découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Retrouvez Joseph Hulla et l'émission Dissonance chaque 4e mardi du mois à 18h, rediffusion le mercredi suivant à 14h et enfin le samedi suivant à 16h.
Cette émission sera rediffusée mercredi 28 mars à 14h et samedi 31 mars à 16h. Salut
et fraternité.